rencontre sur Radio Orient.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, rencontre spéciale, révision de la Constitution en Algérie avec le président de Jiljadid, Soufiane Djilali. La campagne électorale a débuté jeudi avant le référendum du 1er novembre, campagne qui prendra fin le 28 octobre à minuit. Le président du Conseil constitutionnel estime que ce référendum constitue une étape phare dans l'histoire du pays et un jalon essentiel pour l'édification de la nouvelle République en Algérie. Une révision constitutionnelle rejetée par plusieurs partie de l'opposition, une opposition au projet qui se divise elle-même en deux camps, les islamistes du mouvement de la Société pour la paix qui compte 34 députés au Parlement et une partie du camp laïque comme le Rassemblement pour la culture et la démocratie ou encore l'UCP dont vous avez pu entendre la présidente Zoubida Assoul sur Radio Orient. Entretien donc avec le président du mouvement Gilles Jadid qui accepte le dialogue avec le pouvoir et qui accueille favorablement cette révision constitutionnelle. Rencontre avec Soufiane Djilali.
D'abord, le référendum est un enjeu extrêmement important pour la suite des événements, puisqu'à partir de ce référendum, nous aurons une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution permettra la construction de nouvelles institutions élues, en particulier le Parlement, en tout cas la Chambre basse, et ensuite les élections locales. Les enjeux sont importants. Il y a ceux qui soutiennent complètement le processus. Il y a ceux qui, pour des raisons idéologiques, refusent cette constitution, en particulier l'introduction comme langue nationale et officielle et de manière irréversible du tamazir. Donc il y a tout un courant qui refuse que cette langue soit reconnue définitivement, ainsi que la dimension de désidéologisation de l'école et la liberté d'exercice du culte. Donc un courant conservateur qui refuse. Ceux qui s'appellent généralement les progressistes, qui ont toujours défendu Tamazir, qui ont défendu même une dimension laïque de l'État, qui se mettent à refuser cette constitution au motif que le pouvoir est illégitime. Et donc c'est un peu la quadrature du cercle. Je pense que c'est le moment où les Algériens, en tant que citoyens, doivent exercer cette responsabilité-là. Parce qu'il y a des enjeux majeurs, mais qui sont pris en otage entre des jeux politiciens qui sont de mauvais augure.
Alors concrètement, qu'est-ce que cette nouvelle constitution va apporter à l'Algérie sur le plan démocratique ?
Importante batterie de dispositions, parmi lesquelles je peux citer très rapidement, par exemple, la création d'associations devient sur déclaration seulement, alors qu'auparavant, il fallait un dossier très lourd pour avoir un agrément qui pouvait être refusé. C'est la garantie que les partis politiques puissent également être créés. C'est les réunions publiques qui se font sur simple déclaration. Mais c'est aussi un certain nombre de points importants, comme je l'ai dit, la désidéologisation de l'école, donc il n'y a plus d'endoctrinement des enfants. Il y a le fait que les libertés sont précisées, bien qu'il y ait un renvoi vers les lois organiques, mais ça sera l'objet d'une autre bataille probablement. Mais entre-temps, il y a l'introduction de la protection des femmes qui n'existait pas auparavant dans la Constitution, etc. Donc il y a des éléments fondamentaux dans l'exercice des libertés qui sont introduits et dont on aura besoin demain pour continuer le combat, pour acquérir plus de pratiques démocratiques et plus de droits sur le terrain. Et ça sera l'objet probablement d'un autre combat. Mais au moins aurons-nous une constitution de notre côté.
Vous estimez que cette révision de la constitution est une forme d'aboutissement du mouvement populaire en Algérie ?
Alors, il y a un certain nombre de concessions qui sont faites, et surtout sur le plan des libertés, un peu moins sur le plan des institutionnels, sur l'équilibre des pouvoirs, etc., bien que cette fois-ci, la limitation à deux mandats, qu'ils soient successifs ou non, soit inscrite de manière irréversible, ce qui est important pour nous, parce que le contre-pouvoir principal étant la limitation des mandats et donc l'alternative possible, y compris pour les élections législatives où les députés n'auront plus droit qu'à deux mandats, qu'ils soient successifs ou non. Donc là, on introduit une variable extrêmement importante pour qu'il y ait un renouvellement. Maintenant, nous avons qualifié cette constitution comme étant une constitution d'étape. C'est-à-dire, ce n'est pas un aboutissement, elle n'est pas finie, mais elle apporte des éléments extrêmement intéressants pour pouvoir ensuite passer à une autre étape où on exigera une plus grande liberté de la justice, une plus grande indépendance de justice, et puis surtout, on verra le niveau d'engagement du pouvoir par rapport aux valeurs des droits de l'homme et de la défense en général des citoyens.
Vous évoquiez le système judiciaire, le scepticisme d'une partie de la population concernant cette campagne électorale et cette nouvelle constitution peut-il être dû notamment aux nombreuses arrestations de manifestants, de journalistes notamment, mais pas uniquement, lors des derniers rassemblements?
Écoutez, en ce qui concerne les arrestations, il est clair qu'il y a quelques cas qui posent problème par rapport à l'exercice des libertés, puisque en fin de compte, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans ces dossiers-là. Mais le nombre d'arrestations était important le jour de la manifestation, et puis la plus grande majorité est relâchée, ou même s'ils sont appelés à comparaître. Je pense que ça se fait partout dans le monde lorsqu'il y a quelques excès par-ci par-là, les forces de l'ordre interviennent. Je pense que ça se fait partout. En France, il y a bien entendu l'expérience des gilets jaunes. Au-delà, c'est un jeu politicien où le rapport de force se fait à travers les médias. Et donc, ceux qui avaient intérêt à ce qu'il y ait une phase transitoire sans élection, ne pas aller aux élections, mais arriver à la décision, aller aux élections ne les arrange pas, ne les intéresse pas, et donc forcément ils vont trouver tous les bons prétextes pour dire que rien ne va. Je pense qu'il faut garder un petit peu la mesure. Il est évident que nous ne sommes pas dans un état de droit, pas encore en tout cas. Nous ne vivons pas la démocratie. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a une forme de radicalisation qui devient inutile ou qui devient même contre-productive. Et donc, il faut essayer de concilier un peu les positions et aller vers de vraies élections qui permettront de dégager une représentation démocratique qui puisse, elle, engager la construction de l'état de droit. On ne peut pas exiger en préalable à toute action politique l'état de droit et la démocratie. Cela vient comme étant un couronnement d'un processus et non pas le préalable. Et si c'était le préalable et si le pouvoir était en mesure de les offrir tels quels, eh ben je crois qu'il n'y aura plus de raison d'être d'un mouvement de contestation.
Les opposants à cette constitution et les opposants également à ce référendum déplorent l'interdiction de faire campagne pour le boycott de ce scrutin.
Écoutez, la campagne officielle, comme chacun le sait, les très suivis, ce n'est pas les 5 minutes de répartition horaire sur la télévision qui va changer les choses. Les enjeux se déroulent au niveau des réseaux sociaux qui sont complètement libres. Ça se passe au niveau du terrain. Ça se passe. Donc il n'y a pas d'interdiction en dehors du fait qu'il ne passe pas à l'antenne. Je pense que jusqu'à présent, il y a même des expressions presque subversives qui se déroulent sans qu'il y ait de réaction violente de la part du pouvoir. C'est la même chose, ça dépend où on place le curseur. Vous avez ici des journalistes qui, du matin au soir, disent que le pouvoir est illégitime. Je ne les ai pas vus être menottés. Donc, il faut savoir raison garder et essayer de tirer le maximum et le mieux d'une situation qui peut être profitable pour faire avancer le combat démocratique.
Vous allez donc voter oui, bien entendu, à cette révision constitutionnelle, tout en restant vigilant.
On donné de consigne de vote. Notre position officielle est d'interpeller les Algériens pour qu'ils agissent en tant que citoyens. Notre rôle a été d'expliciter ce qui était positif et ce qui était négatif dans la Constitution, ce qui pouvait être l'enjeu, qu'est-ce qui pouvait être essentiel et ce qui pouvait être secondaire. Et on a demandé aux Algériens d'assumer, comme ils l'ont fait le 22 février pour le Hirak, d'assumer aussi une issue qui soit rationnelle par rapport à ce référendum. Donc on a appelé ni au oui ni au non, mais à ce que chacun assume sa responsabilité.
Et vous appelez à la mobilisation.
On n'a même pas employé ce mot, on a dit on interpelle les Algériens en tant que citoyens pour qu'ils assument la responsabilité de la suite des événements. Si en leur fort intérieur, ils considèrent que cette constitution peut apporter quelque chose, débloquer une situation, c'est très bien. S'ils estiment qu'elle ne répond pas à leur demande, à leur exigence, et bien qu'ils votent non à ce moment-là.
Vous avez dit tout à l'heure, Soufiane Djilali, nous ne vivons pas la démocratie en Algérie. Avec cette nouvelle constitution, est-ce un pas vers la démocratie, selon vous ?
De notre point de vue, clairement oui, parce que le chapitre sur les libertés apporte toutes les garanties. Elles restent de l'écrit, encore faut-il passer aux actes. C'est là où nous resterons extrêmement vigilants, parce qu'après la Constitution, il s'agira de mettre en cohérence les lois organiques qui régissent ce domaine-là et se battre sur le terrain pour que ce soit appliqué selon l'esprit et la lettre de la nouvelle Constitution si elle est adoptée, et non pas simplement laisser ces dispositions de l'encre sur du papier et sans conséquence.
La libération du journaliste Khaled Drareni serait-elle un signe particulièrement symbolique et positif à l'occasion de cet anniversaire du 1er novembre et le jour de ce référendum? Est-ce l'un de vos souhaits?
Oui, absolument. C'est l'un de nos souhaits. On en a fait part. Ça serait une bonne occasion d'essayer d'apporter plus d'apaisement. Il y a eu des gestes en ce qui concerne d'autres personnalités politiques, et je le dis franchement, nous étions les avocats auprès du président de la République pour cette libération. Donc il y a eu des libérations de personnalités politiques. Je peux donner les noms. Il y a eu Karim Tabou et Samer Blarbi. C'était à la suite de l'intervention d'Il Jadid. Nous souhaitons que ça se fasse de la même façon pour Khaled Drareni.
Le président du mouvement Il Jadid en Algérie, Soufiane Djilali. Fin de cette émission rencontre spéciale révision de la Constitution en Algérie. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.